Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, venez Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères, mes bien chers amis, je pense pouvoir aujourd'hui terminer le chapitre 10 de Saint Matthieu, c'est-à-dire le deuxième fichier, le fichier qui va des chapitres 6 à 10, donc sur le fichier en PDF que vous avez sur le site. C'est à la page 41. Donc le fichier se termine à la page 44. Ensuite, nous passerons au troisième fichier, le fichier des chapitres 11 à 15. Je vous rappelle que chaque fichier comporte 5 chapitres de l'Évangile. Alors, nous allons avancer. Je reprends à la page 41, donc Saint Matthieu chapitre 10 verset 21, le frère livrera son frère à la mort, le père son fils, les enfants se soulèveront contre leurs parents, les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc Saint notre Seigneur continue ses conseils et ses avertissements. Il y a 2000 ans, il avertissait ses fidèles et ses disciples qu'ils allaient à souffrir, qu'il y avait une incompatibilité totale entre l'esprit du monde et l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette incompatibilité est encore plus flagrante aujourd'hui. Le monde, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est la république maçonnique qui nous entoure. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pauvreté, chasteté, obéissance. Il est absolument impossible de faire correspondre ces deux façons de voir le monde. Où on met Dieu au milieu, c'est l'Église catholique, où on met l'homme au milieu, et à ce moment-là, c'est la République maçonnique ou l'Église de Vatican II, comme vous voulez. Alors, notre Seigneur rassure ses disciples. Il rappelle que les temps seront difficiles, il ne faut pas oublier ce qu'il a dit en Saint Paul. Vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces et vous aurez avec la tentation toujours un moyen de vous en sortir la tentation. Le bon Dieu nous a promis qu'on ne serait jamais tenté au-delà de nos forces, donc le bon Dieu ne peut pas nous demander, à vous et à moi, des choses que nous ne pouvons pas faire. C'est impossible. Sinon notre Seigneur Jésus-Christ serait injuste et il est parfaitement juste en tant que Dieu. Alors ça ne veut pas dire que ça va être facile. Il nous a pas promis, comme disent les pères, un voyage en douceur. Il nous a promis simplement une arrivée en douceur au paradis, avec la grâce du bon Dieu. C'est le texte de Saint-Rémie que vous avez sous le verset 22 du chapitre 10 de Saint-Matthieu. Le caractère propre de la vertu, ce n'est pas de commencer, c'est d'achever. Ce n'est pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui persévèrent que la récompense est donnée. En effet, persévérer dans le Christ, c'est persévérer dans la foi que nous avons en lui et qui agit par la charité. Rappelez-vous cette phrase de Notre-Dame à Fatima, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Elle utilise le futur. Elle ne dit pas « Mon cœur immaculé va triompher demain matin. » Non, elle ne dit pas ça. Elle dit « À la fin des temps, mon cœur immaculé triomphera. » Comme notre Seigneur Jésus-Christ avait dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est simplement au moment de la mort en état de grâce que nous sommes certains du salut, pas avant. Le bon Dieu, bien sûr, ne permettra pas que nous soyons trompés au dernier moment, juste avant de mourir. Pourquoi? Parce que, comme il le dit, il explique à ses disciples, l'arbre tombe toujours du côté où il penche. Donc quelqu'un qui a passé habituellement sa vie en état de grâce, mourra en état de grâce. Quelqu'un qui a passer habituellement sa vie en état de péché mortel, sauf miracle de la Sainte Vierge, mourra en état de péché mortel. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Certes, il y a des miracles, mais c'est des miracles. Le bon Dieu n'est pas obligé de faire des miracles à chaque fois. Et donc, notre Seigneur, avec le verset 23, explique encore un peu plus donc ces persécutions. Lorsqu'ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Alors, rappelez-vous que beaucoup de saints ont très mal commencé, mais ont tous très bien terminé. Tous les saints ont très bien terminé. C'est pour ça qu'ils sont canonisés par l'Église. On le voit très bien chez, par exemple, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Thaïs, Saint Augustin, etc. Tous ces grands pécheurs qui, avec la grâce du bon Dieu, se sont convertis. Regardez la façon dont Sainte Marie-Madeleine a terminé sa vie, la façon dont Saint Augustin a terminé la sienne. Dans tous les grands pécheurs qui sont convertis ont terminé leur vie ici-bas sur la terre. Il y a même des saints qui vont dire, juste en parlant de Sainte Marie-Madeleine, que le bon Dieu a tellement donné de grâce à Sainte Marie-Madeleine et lui a permis entre autres de faire pénitence pendant une trentaine d'années à la Sainte-Baume, près d'Aix-en-Provence, qu'il lui a rendu, il lui aurait rendu le mérite de sa virginité. Le mérite de sa virginité qu'elle avait évidemment perdu à cause de sa vie passée. Alors ne pas se décourager. À cause de ces persécutions qui vont être terribles, vous savez que après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, il va y avoir la destruction de la ville de Jérusalem, et puis ça va être en même temps dans l'Empire romain le début de persécutions terribles qui vont durer pendant 250 ans, hein, depuis la première persécution, celle de Néron en 67, jusqu'à la dernière, hein, celle qui a été interrompue par la conversion de l'empereur Constantin en 313, la paix de Milan. Eh bien, il y a eu une dizaine de grandes persécutions. Bon, je vous l'ai déjà dit très souvent, les historiens sur le sujet ne sont pas tous d'accord sur au niveau du chiffre, des chiffres, mais les deux meilleures histoires de l'Église en français, c'est quand même de loin Rohrbacher et j'ai oublié le nom du deuxième, bon, que je cite souvent. Tous les deux disent que il y a eu à peu près 14 millions de martyrs, martyrs pendant les persécutions. Alors, si le bon Dieu nous demande de supporter la persécution, nous donnera les grâces. Mais attention, hein, n'oublions pas une chose très importante à comprendre, c'est qu'il ne donne pas les grâces avant, parce qu'on n'a pas besoin avant. C'est comme quand les gens, je répète souvent ça comme exemple, mais c'est pour aider les gens à comprendre. Beaucoup de gens paniquent en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire, monsieur l'abbé, quand on lit les récits des actes des martyrs, ils sont coupés en morceaux, en longueur ou dans le sens de la largeur, ils acceptent des tas de choses extraordinaires, des pénitences et des souffrances extraordinaires avec un grand sourire. C'est Saint-Laurent qui, après avoir été grillé d'un côté, demande d'être grillé de l'autre. Mais monsieur l'abbé, moi je serais incapable de faire des choses là. Mais attendez, est-ce que vous êtes en train de griller sur un grill aujourd'hui à cet instant, vous me parlez? Ben non. Ben alors, à quoi ça vous servirait actuellement d'avoir une grâce pour être grillé sur un grill avec un grand sourire et de demander à celui qui vous grille de vous griller de l'autre côté? Vous n'avez pas besoin de cette grâce-là. Le bon Dieu vous les donnera si vous en avez besoin. Donc, c'est pas la peine de paniquer en disant qu'est-ce que je ferai quand les persécutions seront là. Il y aurait les 14 millions de martyrs. J'ai retrouvé le nom du deuxième historien, c'est Daras. Donc Daras de Rohrbacher explique justement, lisez, je n'ai pas le temps de tout lire, lisez dans Daras les récits des grandes persécutions, c'est extraordinaire. Dieu donne des grâces, mais il les donne au moment où on en a besoin, il ne va pas les donner la veille. Si vous avez demain à manifester votre foi, et à cause de votre manifestation de votre foi, vous allez peut-être perdre votre boulot, perdre votre vie, ou perdre la vie de vos enfants, de votre épouse et de votre époux, eh bien le bon Dieu vous donnera demain au moment où ça va arriver, vous donner les grâces, pas avant. Donc la persécution s'étant levée à Jérusalem, les chrétiens se dispersèrent dans toute la Judée, et c'est ainsi que la persécution devient elle-même le principe de la propagation de l'Évangile. Bien qu'en fuyant, ils ne fussent pas preuve d'une foi constante et parfaite, cependant, ils avaient un grand mérite car ils étaient prêts, en prenant la fuite, à tout quitter pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut faire très attention dans ces persécutions d'éviter la présomption. L'Église a toujours interdit la présomption dans ce domaine-là. Elle interdisait aux gens d'aller, aux catholiques, d'aller se livrer. Donc, vous cachez pendant la persécution. Si vous êtes pris, le bon Dieu vous donne la grâce pour témoigner de votre foi devant les persécuteurs. Mais ne cherchez pas à vous faire prendre par les persécuteurs pour mourir martyr, parce que le bon Dieu, à ce moment-là, n'est pas tenu de vous donner des grâces, de la grâce de supporter le martyr. Et ce sang des martyrs, je crois que c'est Tertullien qui dit ça, le sang des martyrs a été une semence de chrétienté. Lorsque les persécutions ont été terminées, encore une fois en 313, mais l'Église est sortie des catacombes et des milliers de personnes, des millions de personnes avaient conservé la foi. Et la foi catholique s'était maintenue même chez César, même chez l'empereur romain. Même alors que Néron, par exemple, persécutait de façon atroce les catholiques, en les brûlant vifs, il les enduisait de poids, les accrochait à des poteaux pour qu'ils servent d'éclairage des rues de Rome la nuit. Il les avait accusés d'être responsables du grand incendie de Rome. Eh bien, même pendant cette période terrible de persécution, il y avait des chrétiens qui étaient dans la maison de César. Des gens qui nourrissaient le César, qui s'occupaient de la maison, eh bien, ils étaient chrétiens, mais personne ne le savait. Et c'était comme ça pendant toute la période des persécutions. Donc encore une fois, maintenons-nous dans l'humilité. Les persécutions actuelles ne sont pas les mêmes. Hein. Les persécutions physiques, les grandes persécutions physiques des premiers siècles de l'Église, depuis 67 que 313, ont entraîné beaucoup, beaucoup de martyrs. Alors, le démon le sait, et actuellement il change de technique, on le voit très bien, c'est plus des persécutions physiques, c'est des persécutions morales. Des persécutions morales, des persécutions psychologiques terribles, cette espèce de grignotage. Au moins, quand on était broyé par un lion, il y avait un quart d'heure à passer pour passer par l'estomac du lion, et c'était pas très facile. Bon, et on était réduit en bouillie par la mâchoire du lion, mais au moins, au bout d'un quart d'heure, c'était terminé. Tandis que les persécutions par lesquelles nous passons, constamment, vous et moi, nous passons, elles vont durer pendant peut-être des années et des années, donc elles sont beaucoup plus pénibles d'un certain côté, mais le bon Dieu donnera les grâces. Il donnait les grâces aux premiers chrétiens d'être mangés par les lions, il nous donnera les grâces pour supporter ces persécutions terribles contre la foi catholique par les gouvernements impies qui nous dirigent, notamment en France. Donc, se maintenir dans l'humilité. Hein, l'humilité est la grande vertu. N'oublions pas que le grand péché du démon, c'est l'orgueil. C'est le péché d'orgueil. Hein, quid ou Deus, avait dit Saint Michel, qui est comme Dieu? Et Satan, l'ange rebelle, Lucifer, avait dit, non, serviam, je ne servirai pas. Et donc, le démon ne commet pas, parce que c'est un pur esprit, il ne va pas commettre tous les péchés d'impureté qu'il fait commettre partout, ou les péchés de vol, les péchés de mensonge, ou de crime. Mais il est consumé par l'orgueil. Il y a une seule chose qu'il ne peut jamais faire, c'est de s'humilier, ça il ne peut pas. Verset 24, on avance dans la page 41, donc du chapitre 10 de Saint Matthieu, toujours dans le deuxième fichier. Le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le père de famille Belzébub, combien plus ceux de sa maison? Donc, encore une fois, là on le voit très bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle la nécessité de cette vertu d'humilité. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Si notre Seigneur Jésus-Christ a été persécuté, a été traité comme le dernier des derniers, alors qu'il est Dieu, il a été traité de fils de Belzébub. Hein, Belzébub, c'est le démon. Alors, soyez pas étonnés, si vous et moi, mes bien chers frères, on est persécutés, hein. Belzébub, c'était, ici il y a quelques explications des pères de l'Église en bas de la page 41. Belzébub était l'idole d'Acharon, qui est appelée dans le livre des rois l'idole de la mouche. Bel est la même chose que Bel, B-E-E-L ou B-E-L ou Baal. Et Zébub signifie la mouche. Donc les Juifs donnaient au prince des démons le nom de l'idole la plus impure qu'on appelait la mouche, à cause qu'elle est immonde. Ce qu'elle a d'immonde, car la mouche, en tombant dans un parfum, on détruit la bonne odeur. La mouche aime les lieux sales, les choses sales, et se délecte dans ces choses sales. C'est le symbole du démon qui n'est à l'aise que dans le péché. Hein? Donc l'âme qui part au combat ne porte pas en elle la ressemblance à l'aigle ou au dragon, mais c'est par la croix de Jésus et au nom du Christ qu'elle se précipite à la bataille, forte avec ce signe et fidèle à son étendard. C'est pour ça que l'Évangile dit, il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur et son Seigneur. Et comment imitons-nous notre Seigneur Jésus-Christ? Nous imitons notre Seigneur Jésus-Christ par la croix. Donc s'il y avait un autre moyen pour nous de nous sauver, plus évident, plus facile à utiliser que la croix, le bon Dieu nous l'aurait donné. Il a voulu que ce soit la croix parce que c'est le meilleur moyen pour nous. Rappelez-vous que le signe de croix est le signe qui a amené la paix à Rome, la paix justement avec la conversion de Constantin. Le Seigneur lui est apparu avec le signe de la croix, Per hoc signum vinces, mets ce signe sur tes étendards, par ce signe de la croix tu vaincras. Il a mis le signe, qu'on appelle le labarum, sur les étendards romains et l'armée romaine a vaincu. Donc c'est pas la croix qu'on sera sauvé, c'est pas la croix qu'on conquérera le monde. Et tous les grands missionnaires ont conquis par la croix. La première chose qu'ils amenaient, c'était la croix. Et puis je suis sûr qu'eux, ils faisaient pas le faux écuménisme. Moi, par exemple, je me rappelle très bien dans un pays que j'ai bien connu, le Mexique, quand Cortés est arrivé avec les premiers franciscains, les premiers dominicains, donc autour des années 1520, 1530, avant l'apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, la première chose qu'il a vue, évidemment, avec ses soldats, ça a été les pyramides juste à côté de Mexico, si mes souvenirs sont exacts, c'est la pyramide de Teotihuacan. Il y avait des marges de ces pyramides étaient couvertes de sang humain à cause des dizaines de milliers de sacrifices humains qui étaient faits par les prêtres des Aztèques. Il y avait des dizaines de milliers de cadavres et de têtes empalées au pied de ces pyramides et de cadavres qui pourrissaient. Et il y avait une statue au sommet de la pyramide de l'idole, la grande idole, le serpent à plumes, la grande idole des Aztèques. La première chose qu'a demandé Cortés, il a précipité lui-même l'idole des Indiens au pied du sommet de la pyramide. Elle s'est fracassée en tombant. Il l'a remplacée par l'image de Notre-Dame. Je veux dire qu'il n'y avait pas de faux écuménisme. Alors, quand aujourd'hui on essaie de nous faire croire que la religion aztèque est une magnifique petite religion nationale, toute naturelle, toute bonne, toute pure, et que ces affreux espagnols, qui n'avaient que l'esprit sanguinaire, ont tout détruit, tout cassé. En fait, ils ont sauvé bien des vies. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, avec, je crois qu'ils étaient 300, les soldats de Cortés, ils ont pu vaincre les Indiens, justement, parce que les Indiens sont laissés faire très facilement, en comprenant très bien que ces Espagnols qui venaient de la mer et qui avaient été annoncés par les prophéties qu'ils avaient reçues, alors qu'ils n'étaient pas encore chrétiens, que ces Espagnols allaient leur amener la délivrance de cette religion épouvantable, qui était la religion du Dieu Soleil. Dieu Soleil qui avait besoin de sang humain, de sang pur, donc de sang jeune, de sang humain, de jeunes gens, de jeunes filles, pour nourrir ce faux Dieu. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines de ces civilisations ont disparu comme ça mystérieusement. C'était le cas, par exemple, des Incas aussi, d'une autre façon, les Aztèques aussi. Et l'arrivée de Cortés n'explique pas tout. Il y a certainement aussi des cas de civilisations qui ont complètement disparu à cause des sacrifices humains. Donc, c'est par ce signe de la croix que nous vaincrons. Donc, la croix, c'est quoi? La croix, c'est le symbole, si vous voulez, du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela doit nous rappeler que nous aussi, nous devons passer par l'idée de sacrifice pour sauver notre âme. Et donc, il nous faut crucifier nos convoitises, surtout les trois concupiscences, concupiscence des yeux, de la chair et de l'orgueil, de crucifier ces concupiscences sur la croix. On dit que la croix, certains saints disent cela, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ doit être plantée dans le cœur de chaque homme, de chaque catholique. Et que c'est pour cela qu'à chaque fois que nous commettons une faute grave, un baptisé qui commet une faute grave, c'est bien plus grave qu'un païen qui commet la même faute grave. Donc un baptisé commet une faute grave, il crucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de son cœur, attention. Donc cette croix a toujours été le signe de la chrétienté, et il faut avoir cette croix avec fierté dans nos maisons. C'est encore un des rares endroits où on peut faire ce qu'on veut dans nos maisons, et qui est la croix, non seulement dans le petit hôtel de la maison devant laquelle vous faites lequel vous faites votre prière du soir avec la famille, mais je dirais avoir cette croix dans chaque pièce de la famille, chaque pièce de la maison. Il faut avoir une croix dans la salle de bain, une croix dans la cuisine, une croix dans chaque chambre, pour que la croix protège. Avançons à la page 42, donc nous avançons dans ce chapitre 10 de Saint Matthieu, versets 26, 27 et 28. « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut perdre et l'âme et le corps dans la gêne. Quel conseil important pour nous, mes bien chers frères. L'âme est plus importante que le corps. Je vous assure que si les gens du monde moderne s'occupaient de leur âme avec le même soin avec lequel ils s'occupent de leur corps, ils seraient tous des saints depuis longtemps. Donc, quand on voit ce que peuvent faire certaines personnes sur le plan de la nourriture, les sacrifices qu'ils peuvent faire en matière de nourriture parce qu'ils veulent éviter les nourritures contaminées et peut-être ne pas attraper le cancer, ou parce qu'ils veulent perdre du poids, ils sont capables de faire des pénitences énormes, considérables. Si je leur demandais le quart ou le dixième de ces pénitences en début de carême, ils me prendraient pour un fou. Alors ils veulent bien faire des pénitences énormes pour perdre du poids ou pour avoir une jolie peau, et puis pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour faire pénitence pour nos péchés, plus personne. Alors attention, nous ne lisons nulle part, disent les pères, que le Seigneur eut pour habitude de discourir pendant la nuit, d'enseigner sa doctrine dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière, et ce que vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Si donc il s'exprime ainsi, c'est que tous ses discours sont ténèbres pour les hommes charnels et que sa parole est comme la nuit pour les infidèles. C'est-à-dire le soleil divin est sombre pour ceux qui ne veulent pas le voir. Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui ferme ses yeux pour ne pas voir la vérité, la lumière. Il faut donc prêcher ces divins enseignements avec toute la liberté de la foi et de la prédication. Donc, la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ est ténèbre pour le monde moderne. Pourquoi ? Parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il prêche ? Il prêche tout pour Dieu. Tout pour Dieu. Et l'Église, le monde moderne prêche tout pour l'homme. C'est l'homme qui prend la place de Dieu. Autre explication des pères. Page 42, ce que je vous dis dans les ténèbres, c'est-à-dire pendant que vous êtes encore sujet à notre crainte toute humaine, dites-le en plein jour. Dire avec la confiance que donne la vérité lorsque l'Esprit vous aura inondé de sa lumière. Et que ce que l'on vous dit à l'oreille, c'est-à-dire ce que vous percevez par lui seul, prêchez-le par les œuvres, tandis que vous habitez sur les toits. C'est-à-dire dans vos corps qui sont la demeure de vos âmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement garder sa foi dans l'âme, il faut que notre foi qui est manifestée dans notre âme, dans notre intelligence, éclairée par la lumière de la foi, il faut que cette foi passe dans nos œuvres. C'est facile de dire et de croire, et de faire croire aux gens qu'on est, je veux dire, de dire qu'on est de la vérité, ça tout le monde peut le faire. Mais à notre absence de haine de l'erreur, on verra qu'on n'est pas dans la vérité. Quid illegitis dominum audite malum, dit David, le roi David. Donc celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. Et si je prétends aimer notre Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas la haine du mal, c'est que je suis un faux catholique. Si je prétends être catholique, mais que je m'habille comme un protestant, que je vis comme un protestant, c'est que je ne suis pas un vrai catholique. Si je prétends être une catholique, mais que je m'habille comme une prostituée, que je laisse mes fils s'habiller comme des prostituées, il ne faudra pas faire quoi ? Il ne faudra pas me dire que vous êtes une véritable catholique, c'est faux. Parce que votre façon de vivre vous trahira. Et c'est par notre façon de vivre, justement, que les gens peuvent, peuvent voir où est la vérité. Vous savez, c'est pour ça que les extérieurs sont tellement importants. Cet après-midi, je suis allé faire une course à Albi. Et j'étais rentré dans un grand centre commercial, j'avais un truc à acheter. Et il y a une dame que je ne connaissais pas qui est arrivée derrière moi, je ne l'ai même pas vue. Elle me double, elle ne s'arrête même pas, elle me regarde, elle me dit: vous ne pouvez pas savoir la joie que vous me faites d'être habillé comme vous êtes habillé maintenant. Merci mon père. C'est pas parce que j'avais la soutane. Et elle est partie, je n'ai même pas parlé avec elle. Mais vous voyez, simplement par le port de la soutane, le port de la soutane, c'est la lumière du monde. Le port de la soutane, c'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que dans le monde moderne, ils détestent tellement la soutane. Les prêtres modernes ne veulent plus de la soutane. Même les anciens, c'est ça le drame. La semaine dernière, je suis allé passer une semaine pour m'occuper de ma vieille maman à Gap. Et mes parents vivaient dans un appartement qui était associé à une maison de retraite pour vieux prêtres. Donc il y a une dizaine de prêtres qui sont là. Quelle tristesse, mon Dieu! Il n'y a plus un seul de ces prêtres qui a le courage d'avoir même un simple signe d'appartenance à la foi catholique par la croix. Ils ont pratiquement aucun, je crois qu'il y a la croix, sauf un peut-être, aucun est en soutane. Et puis il me regarde comme si j'étais un martien parce que je suis en soutane toute la journée quand je suis là-bas, à tel point que je ne veux même pas manger avec eux à midi parce qu'on n'est pas du même monde. Malheureusement, pour éviter des tas d'histoires, je préfère ne pas manger avec eux. Vous voyez, donc encore une fois, c'est notre façon de vivre qui compte. Pas la façon de prêcher. La prédication qui ne se traduit pas par une façon de vivre ne vaut rien. Et ça, c'est très important. Hein. Si, encore une fois, si vous prétendez être catholique, si nous prétendons être catholiques, mais dans notre vie de tous les jours, nous vivons comme un païen, ben c'est que nous ne sommes pas des vrais catholiques. Vous voyez ? Celui qui ne vit pas comme il pense, un jour pensera comme il vit. Ça veut dire quelqu'un qui pense comme un catholique, mais qui vit comme un protestant, un jour il pensera comme un protestant. Une jeune femme qui pense comme un catholique, comme une catholique, mais qui s'habille comme une prostituée, encore une fois, eh bien, un jour pensera comme une prostituée. C'est ça le drame. Et la Révolution a parfaitement compris ça. C'est pour ça que la Révolution pousse tellement les catholiques à s'habiller comme tout le monde, comme les autres personnes. Soyez pas, faites pas tâche par rapport aux autres, habillez-vous comme tout le monde. Parce qu'ils savent très bien que quand la jeune fille commence à s'habituer à être en jupe trop courte, à être avec un décolleté inconvenant, etc., eh bien, ça, qu'elle le veuille ou non, petit à petit, cela va pénétrer son âme et elle va finir par prendre l'esprit du monde. Elle va devenir une prostituée, peut-être pas en sens qu'elle vendra peut-être pas son corps, mais au moins par sa façon, par son comportement, elle va scandaliser tout le monde comme les autres. Autre explication, Saint Jérôme, cette fois-ci, page 42, toujours au milieu de la page. Ce que je vous dis dans les ténèbres, prêchez-le en plein jour. C'est-à-dire, ce que je vous dis dans le mystère, prêchez-le à découvert. Et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. C'est-à-dire, ce que je vous ai enseigné dans un endroit resserré de la Judée, annoncez-le sans crainte à toutes les villes du monde entier. Et ça va être la prédication de Saint Paul. C'est Saint Paul qui va littéralement donner l'exemple d'aller commencer à prêcher au monde entier. Et les apôtres vont faire pareil, mais simplement après l'ascension, pas avant. Avant, notre Seigneur Jésus-Christ va s'occuper que des âmes. Des gens de la Palestine, c'est tout. En Samarie, en Galilée, en Judée, etc. Donc dans ces provinces de Palestine, là il va prêcher. Et après sa mort et sa résurrection, son ascension au ciel, à ce moment-là il va envoyer les disciples dans le monde entier. Et les apôtres sont partis dans le monde entier. Je conseille beaucoup de lire le magnifique livre de Mgr Gaume. Mgr Gaume est un historien extrêmement sûr, un très bon écrivain anti-libéral du 19e siècle. C'est pour ça qu'il est détesté par les gens modernes et par certains intégristes d'ailleurs aussi, malheureusement. Et il a écrit un livre splendide sur l'évangélisation apostolique du globe, je crois que c'est le titre. C'est splendide, vous pouvez l'avoir sur internet. Lisez-le, ça montre justement que immédiatement après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, miraculeusement déjà les apôtres ont été envoyés dans le monde entier. L'histoire prouve que saint Thomas est allé jusqu'en Chine, vraisemblablement c'est lui aussi qui est allé en Amérique latine, déjà au milieu du 1er siècle, miraculeusement, pour prêcher l'évangile. Saint Augustin donne le sens mystique de ces phrases. Comme l'étoile brille dans la nuit mais n'est pas visible pendant le jour, ainsi agit la véritable vertu qui souvent n'apparaît pas dans la prospérité mais brille dans l'adversité. Ce que je dis dans les ténèbres, c'est-à-dire dans la crainte prêchée dans la lumière, c'est dans la confiance de la vérité. C'est une phrase magnifique, ça. Ainsi agit la véritable vertu qui souvent n'apparaît pas dans la prospérité mais brille dans l'adversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en période de guerre qu'on va voir où sont les bons soldats. Tous les soldats sont bons pour une période de paix. Et c'est pareil pour nous. C'est dans les périodes difficiles comme celles dans lesquelles on vit actuellement, c'est évident qu'on vit. Les gens, souvent les catholiques, souvent me disent, monsieur l'abbé, on vit une période épouvantable aujourd'hui. Et je réponds toujours, mais aujourd'hui c'est vrai, on vit une période pour les héros. Et seuls les héros pourront être fiers de cette période dans laquelle on vit, le bon Dieu nous demande de vivre. Et ceux qui ne veulent pas être des héros dans leur foi, ils peuvent partir en courant, ils n'ont rien à faire dans la foi catholique. Donc la véritable vertu, elle va apparaître justement par le simple fait que nous sommes catholiques. Quelqu'un qui manifeste sa foi catholique, je donnais l'exemple de la soutane pour le prêtre tout à l'heure, avec ce qui m'est arrivé cet après-midi à Albi, eh bien, cette foi catholique, elle est comme le soleil du monde moderne. N'oublions pas qu'un des signes par lesquels on peut reconnaître la présence du démon dans une âme, c'est l'obscurité. Et donc le signe de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la lumière. Et c'est pour ça que le démon a tellement travaillé pour supprimer la soutane du prêtre et l'habit de la religieuse. Quand dans tous les hôpitaux il y avait ces cornettes des bonnes sœurs dans les hôpitaux qui étaient habillées comme de bonnes sœurs et qui faisaient un travail d'infirmière extraordinaire pour les corps et aussi pour les âmes. Mais beaucoup de gens ont sauvé leurs âmes parce que, évidemment, dans les hôpitaux il y a beaucoup de morts. Et quand les gens sentaient qu'ils allaient mourir, l'infirmière était toujours là, juste à côté, parce qu'elle préparait le terrain. Et puis elle allait réconforter le mourant. Et puis, quand elle sentait que le mourant était quand même maintenant à peu près prêt à voir le prêtre, elle disait, voilà, je vais aller vous chercher celui qui va vous remettre en paix avec notre Seigneur. Mais ma sœur, je me suis pas confessée depuis 40 ans. Ça fait rien, le prêtre va venir. Elle allait chercher le prêtre. Elle introduisait le prêtre au mourant pour qu'il puisse donner l'absolution. C'est quand il n'y aura plus de prêtre qu'on comprendra ce qu'est un prêtre. Le livre « Les soutanes sous la mitraille » est des exemples extraordinaires que j'utilise parfois dans la lecture à table de retraite, justement qui montrent justement tout le rôle du prêtre. Les francs-maçons avaient voulu, pendant la Première Guerre mondiale surtout, ils avaient dit, leur devise c'était « les curés sac au dos ». Donc ils ont dit « on va envoyer les prêtres à la guerre, au front ». Comme ça, ils vont être corrompus par les troupiers et ils vont devenir comme les autres. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Ces prêtres en soutane, c'était en soutane s'il vous plaît, hein, en soutane au front, ils étaient brancardiers et puis ils faisaient le travail le plus dangereux, aller chercher les mourants, les corps de tous ceux qui avaient été assassinés par les balles. Eh bien, ils allaient les chercher dans le no man's land, entre les tranchées. Des conditions d'héroïsme extraordinaires. Qui sait ce petit livre qui est splendide, qui a été réédité par les éditions Saint-Rémy. Donc, ne vous étonnez pas si le bon Dieu permet que nous soyons dans l'adversité, bien parce que dans l'adversité, la vertu va apparaître comme un soleil. Un soleil qui illumine les ténèbres. Donc soyez pas surpris si le bon Dieu nous demande de pratiquer notre foi dans l'adversité. Encore une fois, ça serait facile. Encore une fois, les gens parfois ont du mal à comprendre ça. J'ai reçu un coup de téléphone ce soir, encore une personne qui me disait, mais vous savez, ça serait quand même mieux si on était au temps de Saint-Louis. Ah ben, je suis d'accord avec vous, c'était mieux. Si on avait Saint-Louis comme roi, c'est quand même pas la même chose que d'avoir Macron comme président. Bon, et ça c'est sûr. Bon, et d'avoir Saint-Albert le Grand comme président de la, comme supérieur de l'Université de Paris, c'est pas pareil que d'avoir des communards socialistes, libéraux, libertaires, qui détruisent les âmes de tous les étudiants, comme aujourd'hui, c'est sûr. Mais si le bon Dieu a voulu qu'on vive sous Macron, il y a une raison. Voilà. Et il vous donne, il me donne les grâces pour arriver à conserver la foi malgré les persécutions religieuses, les persécutions morales surtout entraînées par Macron, par Macron et sa bande. Versets 29 à 31, page 42 du chapitre 10 de saint Matthieu. Deux passereaux ne se vendent-ils pas un as? Cependant, ils n'en tombent pas un à terre sans la volonté de votre Père. Les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Donc là, notre Seigneur va faire allusion à la providence de Dieu. La providence de Dieu qui est une, si vous voulez, bon Dieu ne se contente pas de créer des créatures. Une fois qu'il les crée, il les maintient dans l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de même, c'est saint Matthieu qui en a parlé, donc, et d'autres évangélistes aussi, de même que le bon Dieu, eh bien, il va, quand il crée le lys des champs, qui pourtant ne va vivre que quelques jours avant de pourrir et d'être jeté au feu, eh bien, il va maintenir la beauté pendant toutes ces journées-là, la beauté du lys des champs. Il va s'occuper des passereaux dans les champs. Alors, s'il s'occupe des passereaux, il va s'occuper de chacun d'entre nous. C'est ça la providence. Il faut y croire, la sainte providence. Et le bon Dieu permet justement des persécutions terribles, mais il nous donne aussi des grâces extraordinaires pour arriver à tenir le coup. Vous savez, constamment le bon Dieu nous donne des grâces, des signes de sa miséricorde et sa bienveillance à notre égard. C'est ça la miséricorde. Je vais vous donner un petit exemple. Je crois que je ne l'ai pas encore donné cours en sermon, mais ça me semble, c'est un exemple que je crois que je peux donner. Je vis avec des dons. Bon, c'est uniquement comme ça que je vis. Je n'ai pas de salaire. Je vis avec des dons. Et il faut faire attention évidemment à ne pas gaspiller mon argent. Mais je considère que ces dons que je reçois, ce n'est pas simplement de l'argent pour moi. C'est aussi de l'argent parce que je suis prêt pour m'occuper des pauvres. Bon, alors les pauvres, je ne vais pas aller m'occuper des. Tous les migrants, Macron s'en occupe déjà suffisamment bien. Hein, mais je vais m'occuper des pauvres catholiques, dans la tradition. Des gens qui tirent le diable par la queue. En fin de mois, et je le sais, qui ont pratiquement plus rien en fin de mois pour donner à manger aux enfants. Il y a quelque temps, j'ai aidé comme ça une famille que je connaissais très bien, des anciens fidèles à moi. Bon, lui a perdu son boulot, il a eu un accident de voiture, ils ont eu la totale. Et puis plus rien, madame me téléphone complètement paniquée, c'est plus rien, quoi, plus rien du tout. Je leur ai envoyé une somme importante pour les aider. Bon, et puis après, je me suis dit, quand même, mince, j'ai pris sur l'argent que je gardais pour changer ma voiture, parce que j'ai pas été imprudent de donner tout cet argent. Et puis, je pars m'occuper de ma vieille maman. Je reviens une semaine après, ici à Padiès, j'ouvre la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres, il y avait 4 lettres. Et dans une de ces lettres, il y avait un chèque qui correspond exactement au centime près à la somme que j'avais donnée à cette famille. Et pour bien me faire comprendre que j'avais bien fait de faire ce que j'avais fait. Oui. Donc voilà ce que disent les pères. Si des petits animaux ne périssent pas sans la permission du bon Dieu, un passereau par exemple, si sa providence s'étend à toutes les créatures, et si celles d'entre elles qui sont sujettes à la mort ne peuvent périr sans la volonté de Dieu, vous, dont la destinée est éternelle, devriez-vous craindre que la providence vous abandonne dans le cours de cette vie? Si le bon Dieu s'occupe d'être une petite créature sans âme, comme un passereau, eh bien, le bon Dieu va s'occuper de nous. Si le bon Dieu s'occupe d'une plante, lys des champs, eh bien, il va s'occuper de nous. Nous avons une âme infiniment supérieure à l'âme philosophique qui existe, si vous voulez, dans une plante. Dans une plante, il y a ce qu'on appelle une âme purement végétative. Une âme végétative, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plante, elle grandit, elle croît. Un arbre, ça grandit. Ça passe une petite semence qui est dans la terre, et puis ensuite une petite plantule qui apparaît, et puis la plante va apparaître, avec d'abord la verdure, puis ensuite la fleur qui va arriver, qui va donner du fruit. Donc ce qu'on appelle une âme purement végétative, c'est la vie végétative. Un oiseau, il a une vie végétative. Donc il a une âme végétative, mais il a aussi une âme sensitive. Si vous coupez la plante, elle ne sent rien, parce qu'elle n'est que végétative. Elle n'a qu'une vie que purement végétative. L'oiseau, si vous lui tirez sur les ailes, il souffre. Pourquoi? Parce que son âme n'est pas simplement végétative, elle est aussi sensitive. Donc, c'est une âme purement philosophique. Qui dit âme, dit vie. Donc, toute vie, c'est l'âme. Donc, un arbre qui est vivant, il a une âme, mais une âme philosophique qu'on appelle une âme végétative. L'oiseau, il a une âme qui est à la fois végétative et aussi le degré au-dessus, c'est une âme sensitive. L'homme, il a aussi une âme puisqu'il vit. Mais il n'a pas simplement une vie végétative, qui va grandir par exemple, il a aussi une vie sensitive, il a des sens, des nerfs sensitifs, qui vont leur enseigner ce qui se passe à l'extérieur, il va souffrir comme tout le monde, mais il a aussi une vie intellectuelle. Il a une vie végétative, une vie sensitive, et une vie intellectuelle, une âme raisonnable. Quand on parle en français courant de l'âme, on parle de l'âme raisonnable. Mais strictement parlant, en philosophie, on parle aussi d'une âme pour toute chose qui est en vie. Une pierre n'a pas d'âme. Une pierre n'a pas d'âme parce qu'elle ne souffre, elle ne grandit pas, elle ne croît pas en taille, parce qu'elle n'a pas de vie végétative, ni de vie sensitive, ni de vie raisonnable. Nous, au contraire, on a une âme raisonnable. C'est la définition de l'âme. Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu et de le suivre parce qu'elle est immortelle. Donc, si le bon Dieu s'occupe de toutes les choses matérielles autour de nous, de tous les petits animaux autour de nous, il s'occupe de nous aussi. Explication de Saint-Hilaire, dans le sens mystique. Ce qui est vendu, donc... deux passereaux ne se vendent-ils pas un as Et qu'est-ce que ça veut dire selon Saint-Hilaire? Dans le sens caché, le sens mystique, ce qui est vendu, c'est le corps et l'âme. Et celui auquel on le vend, c'est le péché. Donc, quand je commets un péché, je vends mon âme à celui qui va devenir mon chef. Je change de chef. Au lieu de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme supérieur, je reconnais le démon comme supérieur. Ceux qui vendent deux passereaux pour une obole sont ceux qui étaient nés pour prendre leur essor et se lever jusqu'au ciel sous les ailes de la grâce, et qui se vendent pour un misérable péché. Séduit par les voluptés de cette vie, acquis par avance aux vanités du siècle, ils se prostituent tout entier et se vendent à ce vil prix. Phrase très forte de Saint-Hilaire. Par le péché, je me prostitue tout entier et je me vends à vil prix à mon acheteur, celui à qui je me vends. Et cet acheteur à qui je me vends, c'est le démon. Donc, ou je me vends à notre Seigneur Jésus-Christ, qui dit à mon maître, et c'est le chemin du paradis, ou je me vends au démon, qui devient mon maître, et à ce moment-là, c'est le début de la chute vers l'enfer. Or, la volonté de Dieu, c'est que l'une de ces deux substances s'élève par son essor au-dessus de l'autre. Mais une loi qui est également Dieu pour auteur veut que l'autre soit plus porté à tomber qu'à s'élever. De même que si elles avaient pris leur vol ensemble, elles n'auraient fait qu'un et que le corps serait ainsi devenu spirituel. De même, lorsqu'elles sont toutes les deux vendues au péché, le corps et l'âme, l'âme devient terrestre et matérielle au milieu des souillures du vice et les deux substances n'en font plus qu'une seule que les inclinations de la chair font tomber violemment à terre. Et donc on voit très bien comment, si l'âme maîtrise le corps, si l'âme devient maîtresse du corps, à ce moment-là, la nature humaine peut s'élever vers le bon Dieu. Mais si le corps devient maître de l'âme, à ce moment-là, on est englué dans le monde moderne, dans le péché du monde moderne, on ne peut pas monter vers le ciel. C'est absolument impossible, comme un oiseau, si vous voulez, qui est pris par de la glu. Avant, ils chassaient les oiseaux. Les paysans chassaient les oiseaux en mettant de la glu sur les branches pour chasser les merles et se nourrir. Eh bien, un oiseau qui a les pattes emprisonnées dans cette glu, il peut plus, il bat des ailes, mais il peut plus s'envoler parce qu'il est collé à la branche. Eh bien, quand je suis le démon, quand je vis en état de péché mortel, et quand je tombe, j'ai le malheur de commettre un péché mortel, je me donne à ce moment-là immédiatement au démon. C'est ça qu'il faut comprendre. Je me donne au démon. Alors attention. on sent dans cette souillure du monde moderne les influences manichéennes albigeoises, les cathares, c'était ça aussi. On retrouve tout ça dans l'espèce d'ésotérisme gnostique actuel. Le gnosticisme, c'est aussi un peu du manichéisme, hein. C'est-à-dire, les manichéens, ils croyaient l'existence de deux dieux, le dieu de la matière et le dieu de l'esprit. Et donc, quand la matière était méprisable, on pouvait faire n'importe quoi avec son corps, puisque ce n'était que de la matière. Donc, ils acceptaient le mariage à condition qu'il n'y ait pas d'enfant, parce que l'enfant, c'était la propagation de la matière, et donc c'était mauvais. Donc, par contre, on pouvait user toutes les joies de l'union sexuelle, à condition qu'il n'y ait pas d'enfant. Vous voyez un petit peu les conséquences sur le plan moral pour la société. Le sauveur ne dit pas tous vos cheveux seront conservés, mais il dit tous vos cheveux seront comptés. Les cheveux même de votre tête tous seront comptés. Cette manière de parler prouve que Dieu connaît le nombre de nos cheveux, et non pas qu'il les conservera tous. Quelle belle phrase des pères. Je répète, Dieu connaît le nombre de nos cheveux, mais non pas qu'il les conservera tous. Ça prouve, si vous voulez, que Dieu qui connaît le nombre exact de nos cheveux représentent chacun d'entre nous, en quelque sorte, les hommes, ça ne veut pas dire qu'il va tous se maintenir au ciel. Nous maintenir sur la route qui mène au ciel. Il y en a certains qui, malheureusement, vont utiliser leur intelligence et leur volonté pour s'éloigner du bon Dieu. Hein, c'est le cas, on le voit très bien avec Judas. Judas, malheureusement, a refusé les grâces du bon Dieu. Et Judas est tombé en enfer. Notre Seigneur Jésus-Christ dit expressément, hein, il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. Quelle tristesse. Donc, Saint Rémy, en bas de la page 42, dans le sens mystique, Jésus-Christ est la tête, les apôtres sont les cheveux. C'est avec raison qu'il assure que ses cheveux ont été comptés parce que les noms des saints sont écrits dans le ciel. Il y a d'autres explications de ces versets de Saint Matthieu, donc au chapitre 10, verset 29, ne craignez donc point, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. À la page 43 du fichier sur Saint Matthieu chapitre 10, et voilà ce qui est dit symboliquement, Saint Hilaire, les deux passereaux sont le corps et l'âme, qui sont nés comme s'ils étaient des oiseaux qui devaient voler avec leurs ailes spirituelles vers le ciel, mais que le pécheur a vendu pour un as, c'est-à-dire pour quelques petits plaisirs avec le démon pour finalement aller en enfer. Donc, quand je maintiens mon âme dans le péché mortel, c'est comme si j'avais perdu une aile. Un oiseau ne peut pas voler qu'une seule aile, c'est pas possible. Donc, certains saints, certains pères comparent les deux ailes qui permettent à l'oiseau de voler à l'union du corps et de l'âme. De même qu'il faut deux ailes pour que l'oiseau puisse aller vers le ciel, puisse voler, de la même façon, pour que l'homme puisse agir normalement, il lui faut un corps et un âme. Une âme. Si l'âme est séparée du corps, si le corps est séparé de l'âme, l'homme ne peut plus travailler normalement dans sa nature humaine. Les cheveux du Christ, disent certains pères, sont les élus et ceux qui seront sauvés, car ils ornent le Christ comme la chevelure orne la tête. Donc, de même que la chevelure est la couronne, si vous voulez, de la tête, de l'intelligence, et bien de la même façon, les élus du ciel vont devenir la couronne de notre Seigneur Jésus-Christ, donc sa chevelure. D'autres pères disent que les cheveux sont les pensées, les paroles, les actions des fidèles. Ils représentent ainsi les plus petites pensées et les intentions des saints. Versets 32 et 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez, notre Seigneur explique bien ici qu'il faut pas simplement croire de cœur, il faut aussi confesser de bouche. Vous voyez, trois choses, croire de cœur, c'est la foi au niveau de l'intelligence, confesser de bouche, c'est la prédication de la foi, mais ça suffit pas, il faut encore vivre selon cette foi de cœur et cette confession de bouche. Il faut que la façon de vivre corresponde aux deux premières étapes. Première étape, croire de cœur, deuxième étape, confesser de bouche, troisième étape, agir dans le monde comme un catholique. Et le plus compliqué, c'est la troisième étape. Il est relativement facile de croire de cœur pour obtenir la justice, de confesser de bouche même, mais si je n'agis pas comme je prêche, Je deviens un hypocrite pour le bon Dieu. C'est cette confession dont l'apôtre a dit en Romains chapitre 8, il faut croire de cœur pour obtenir la justice et confesser de bouche pour obtenir le salut. Ainsi, ne pensez pas pouvoir être sauvé sans la confession des lèvres. Car notre Seigneur ne dit pas seulement celui qui m'aura confessé, mais il ajoute devant les hommes. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Et quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Notre Seigneur ne dit donc pas simplement celui qui m'aura confessé, mais ajoute devant les hommes, et encore celui qui m'aura renoncé devant les hommes, je le renoncerai moi-même devant mon Père qui est dans les cieux. Donc il faut, encore une fois, que cette foi, cette confession de notre Seigneur Jésus-Christ soit pas simplement interne, mais passe aussi à l'extérieur devant les hommes. Attention. Matthieu 10, 34 à 36, deuxième partie de la page 43. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, la fille d'avec sa mère, et sa belle-fille avec sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi ceux de sa propre maison. Donc là, c'est une partie bien, bien pénible que le bon Dieu nous annonce. C'est-à-dire que, malheureusement, dans nos familles, il y aura des divisions. Et on le voit constamment aujourd'hui. Rares, très rares, sont les familles dans lesquelles tous les enfants suivent sans problème l'éducation catholique que les parents essaient de leur donner. Il y a malheureusement très souvent, pas dans toutes les familles, mais presque, il y a le petit canard boiteux, il y a la petite brebis noire qui refuse de suivre. Combien de fois j'ai eu dans mon bureau des parents pleurent qui me disent « Monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, monsieur l'abbé, on a nos enfants qui envoient tout promener, on a plus aucune influence sur nous, on l'a gardé à la maison et puis là il vient d'avoir 18 ans, il est parti, il nous a abandonné du jour au lendemain, il a claqué la porte, il est parti avec sa petite copine qu'il avait d'ailleurs notre dos, il allait se mettre en ménage. Et monsieur l'abbé, il est maintenant dans la drogue, il est maintenant dans les péchés d'impureté. » Quand ce n'est pas des péchés d'impureté contre nature qui sont encore plus graves. Eh bien, que faire? Que faire? Se mettre au pied de la croix. Mon Dieu, que votre volonté soit faite. Le bon Dieu ne veut pas le péché, mais il le permet. Donc il donne les grâces aux parents pour arriver à attraper les enfants. Hein. Il est toujours votre fils, même s'il a fait n'importe quoi, il est toujours votre fils. Hein. Il faut toujours prier pour lui, faire pénitence pour lui. Souvent, c'est tout ce qu'on peut faire pénitence pour amener les enfants. Voyons page 43 ce que disent les pères sur ce passage-là. Dans le sens mystique, c'est Saint-Hilaire qui part le glaive. Je suis venu apporter le glaive. Qui est l'arme la plus aiguisée et l'emblème de la souveraineté, du pouvoir judiciaire, la sévérité du droit de punir les coupables. Pouvoir de magistère, pouvoir de ministère, pouvoir de gouvernement, le pouvoir de faire les lois, de juger selon les lois, être condamné selon les lois. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir coercitif, attention, les trois. Tout ça, c'est le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est Christ roi. C'est l'emblème donc, c'est ça, la souveraineté du pouvoir judiciaire, la sévérité du droit de punir les coupables. Rappelons-nous donc que ce glaive figure la parole de Dieu. C'est Saint Paul qui le dit, le glaive du salut. C'était l'épître de dimanche dernier. L'épître de dimanche dernier où Saint Paul justement parle très bien de tout cela. Je vais vous donner le texte là. Voilà ce que dit Saint Paul. C'est aux Éphésiens chapitre 6. C'était l'épître du 21e dimanche après la Pentecôte. Mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans toute sa vigueur toute puissante, revêtez l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les perfidies du diable, car ce n'est pas avec la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les puissances, contre les princes de ces mondes ténébreux, contre les esprits de malice répandus dans les cieux. Prenez donc l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux jours mauvais et demeurer en tout fermes et parfaits. Tenez-vous donc les reins saints de la vérité, couverts de la cuirasse de la justice, la chaussure aux pieds, tout prêt à aller armer l'évangile de la paix. Armez-vous surtout du bouclier de la foi, moyen duquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Cette épée, nous disent les pères, donc qui est comme une arme en double tranchant, donc qui va séparer littéralement les bons des mauvais. Donc ce glaive figure la parole de Dieu, il a été apporté sur la terre, c'est-à-dire que la prédication l'a fait pénétrer dans le cœur des hommes. Ce glaive a donc divisé entre eux les 5 habitants d'une même maison, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ces 3 habitants représentent le corps, l'âme et la volonté, disent les pères. Car de même que l'âme a été unie et donnée au corps, ainsi le pouvoir d'user de l'un et de l'autre à son gré a été donné à l'homme. Et c'est pour cela que Dieu a imposé des lois à la volonté, quand nous le voyons dans ceux qui sont les premiers sortis de sa main, c'est libre arbitre, l'intelligence. L'objet formel de notre intelligence, c'est le bien. Et le bon Dieu ne va pas nous obliger, manu militari, l'objet de notre intelligence, c'est le vrai. Dieu ne va pas nous obliger, manu militari, à suivre cette lumière du vrai. Malheureusement, on peut, à cause de notre libre arbitre, refuser de suivre notre Seigneur, comme Judas refusait de suivre son maître. Par suite du péché de la désobéissance de notre premier père, le péché devint pour les générations suivantes le père de notre corps, l'infidélité la mère de notre âme, la volonté adhère à l'un à l'autre, et c'est ainsi qu'on trouve 5 habitants dans la même maison. Et donc le corps, l'âme, la volonté, la mémoire, l'intelligence, vous voyez, on retrouve ces symboles de toutes ces personnes dans la même maison. Pourquoi ? Dans la même maison, dans notre âme, à la fois l'intelligence, à la fois la volonté, à la fois la mémoire. On a les puissances de notre âme, on a l'intelligence, la volonté, l'irascible, le concupiscible, tout ça dans la même maison. Mais lorsque nous sommes renouvelés dans les eaux du baptême, la puissance de la parole nous sépare des péchés de notre origine, et ces retranchements qu'opère le glaive de Dieu rompt tous les liens d'affection qui nous attachaient à notre père et à notre mère. C'est ainsi qu'on voit éclater dans une même maison de sérieuses divisions. L'homme régénéré trouve des ennemis dans ce qu'il a de plus intime en lui, car il met toute sa joie dans la sainte nouveauté de son esprit, tandis que les restes de son ancienne origine veulent conserver ce qui faisait l'objet de leur bonheur. Donc malheureusement, notre Seigneur Jésus-Christ nous prévient ici que celui qui est catholique, eh bien, il va se mettre à dos les membres même de sa famille. Hein? C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas venu apporter la paix, il est venu apporter le glaive. Le moderniste n'aime pas quand on rappelle ce verset. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Les modernistes, ils parlent toujours de la paix, l'amour, love, et tout est merveilleux dans l'amour humain. Mais attention, notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter le glaive. Il est venu apporter la division. Par sa prédication, qui est comme un glaive à double tranchant, il va séparer les gens. Ceux qui vont suivre et ceux qui vont le refuser. On voit très bien notre Seigneur Jésus-Christ prêche, notre Seigneur Jésus-Christ fait des miracles extraordinaires. On le voit par exemple avec la résurrection de Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine et de Sainte Marthe. Il ressuscite Lazare. Des gens voient ce miracle extraordinaire, beaucoup se convertissent. Mais les mêmes qui ont vu les miracles aussi, certains refusent de se convertir, se réunissent avec les pharisiens pour essayer de voir comment se débarrasser de notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'ils viennent d'assister à un miracle extraordinaire. Le bon Dieu ne détruit pas notre libre arbitre, attention. Je suis venu séparer l'homme d'avec son père, parce que le chrétien renonce au démon dont il était le fils et la fille d'avec sa mère, c'est-à-dire le peuple de Dieu d'avec la cité du monde qui n'est autre que la société corrompue du genre humain, représentée dans l'écriture tantôt par Babylone, tantôt par Sodome, tantôt par l'Égypte ou sous plusieurs autres dénominations. Donc cette séparation, si vous voulez, représente la séparation entre l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ et l'enseignement du monde. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est au pied de la croix pour monter au ciel avec la croix. L'enseignement du monde moderne, c'est jamais souffrir, jamais mourir. C'est ça, la liberté, l'égalité, la fraternité. La belle-fille séparée d'avec sa belle-mère, c'est l'Église séparée, opposée à la synagogue, qui enfantait selon la chair le Christ, époux de l'Église. Tous sont divisés par le glaive de l'Esprit, qui est le Verbe de Dieu, et les ennemis de l'homme sont ceux de sa maison avec lesquels il était lié par une intimité des plus étroites. Et ça peut être aussi compris dans l'Église. C'est pas simplement dans nos maisons qu'il y aura des divisions, c'est dans l'Église même. On le voit très bien. Regardez tous les évêques du temps de Pie XII. Beaucoup de ces évêques avaient été sacrée par Saint Pédis, sous Saint Pédis. Eh bien, lorsque Pilouze est mort, l'immense majorité de ses évêques sont devenus modernistes complètement. Et ont tout accepté, sont acceptés de sauter dans le torrent impétueux qui descendait de la montagne de Vatican II, qui a tout détruit. Pourtant, ils avaient reçu tous la même formation. Souvent, les gens nous disent, ah, mais s'il y a un pagamment dans l'église, c'est que la formation n'était pas bonne avant. C'est pas ça. C'est pas tellement une question de formation. Bien sûr, la formation est importante, mais ça suffit pas. La preuve, sous Pie XII, la formation dans les séminaires est encore correcte. Regardez ce que ça a donné après, Pie XII, quand il est mort en 1958, tout a sauté. Donc, je vais terminer le chapitre 10 aujourd'hui, donc page 44. Allégoriquement, cette division des Juifs signifie la discorde et l'opposition des parents et des frères non-croyants, qu'ils soient juifs ou gentils au temps du Christ, surtout quand les fidèles risquaient de graves périls au niveau de leurs biens, de leur réputation et même de leur vie. N'oubliez pas que dans les grandes persécutions au début de l'histoire de l'Église, quand quelqu'un était reconnu comme catholique, il perdait tout. Hein? Tout. Il perdait sa femme, ses enfants, sa maison, son argent, ses meubles, tout. Et puis il se retrouvait tout nu, juste devant les lions. Hein? Et là, il y a cette magnifique conclusion du chapitre 10 de Saint Matthieu. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, les pères ne défendent pas d'aimer son père et sa mère. D'ailleurs, c'est un commandement de Dieu, c'est le quatrième commandement du bon Dieu, aimer, respecter ses parents, respecter son père et sa mère. Mais il ajoute d'une manière expressive, plus que moi. On a le droit d'aimer, on doit aimer son père et sa mère, mais on doit toujours aimer le bon Dieu plus que ses parents. On doit aimer ses enfants, mais on doit aimer le bon Dieu plus que ses parents. On doit aimer sa paroisse, mais on doit aimer le bon Dieu plus que sa paroisse. Ceux, en effet, qui donneront la préférence à ses affections sur l'amour du bon Dieu se rendront indignes de l'héritage des biens futurs. Ce qui signifie qu'on est indigne de toute union avec Dieu quand on préfère les affections de la chair et du sang à l'amour spirituel qu'on doit avoir pour le bon Dieu. Le bon Dieu, par ses paroles très fortes, celui qui ne prend pas sa croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi, nous montre que notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, il est venu, il l'avait dit juste avant, il est venu comme, non pas pour apporter la paix, mais le glaive. Le glaive, c'est quoi? C'est le glaive de la croix. C'est pas la croix qui sépare. Ce qui va être émondé et monté vers le ciel, et ce qui va refuser d'être émondé et descendre vers l'enfer. Donc si je préfère les affections de la chair et du sang, eh bien, je ne peux pas avoir d'affection, d'amour spirituel pour le bon Dieu. Le mot croix, disent les pères, vient d'un mot latin, cruciatus, qui signifie tourment. Nous portons la croix du Seigneur de deux manières, ou bien en mortifiant notre corps par la privation, ou par un sentiment de compassion qui nous fait regarder comme nôtre les misères du prochain. C'est ça la charité. Mortifier notre corps, mortifier aussi les puissances de notre âme, mortifier notre intelligence, mortifier notre volonté, mortifier notre concupiscible, mortifier l'irascible. L'âme ne signifie pas ici la substance même de l'âme, mais la vie présente. Est-elle le sens de ces paroles? Celui qui cherche son âme en cette vie, c'est-à-dire celui qui désire cette vie avec ses attachements, ses plaisirs, et qui cherche à la trouver toujours, parce qu'il veut la conserver toujours, la perdra. C'est-à-dire qu'il prépare son âme à la damnation éternelle. C'est ainsi qu'on perd sa vie en voulant la sauver, et qu'on la sauve en consentant à la perdre. Car le sacrifice d'une vie qui passe si rapidement nous met en possession d'une vie qui ne finira jamais. Donc la mort qui arrive au bout de notre temps sur la terre, séparation entre corps et l'âme, c'est tout simplement le passage à une vie. C'est le passage à un autre monde. On passe du temps à l'éternité. Enfin, je vais terminer le chapitre 10, versets 40 à 42. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Donc voilà ici les explications des pères. Celui qui reçoit le prophète comme prophète et qui comprend ce qu'il lui enseigne des choses futures partagera ses récompenses. Les juifs donc, qui ne comprenaient les prophètes que dans un sens charnel, ne recevront pas la récompense des prophètes parce qu'ils ont refusé celui que les prophètes annonçaient, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean Chrysostome, il recevra la récompense des prophètes, car de même que l'homme ne porte pas de fruits par lui-même, il soutient néanmoins la vigne avec ses grappes, et il fait sien d'un autre ce qu'il soutient aimablement. Donc, il faut pas simplement écouter les prophètes, mais les vivre, vivre de ces prophéties. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la prophétie vivante. C'est la prophétie qui passe dans la vie de tous les jours. Il n'y aura pas égal pour celui qui descend à la bataille et pour celui qui reste avec les bagages. Ils diviseront également le butin. Le Christ affirme donc qu'une œuvre de miséricorde faite à un homme simplement parce qu'il est homme relève de l'ordre naturel. Mais s'il le fait parce qu'il est un croyant compagnon des saints de la maison de Dieu, cela devient une œuvre de miséricorde bien plus élevée d'ordre surnaturel. Voilà mes bien chers frères ce qu'il nous faut comprendre. Je vous demande, je vous conseille beaucoup, quand on a terminé un chapitre comme ça, on a terminé ici le chapitre 10 de Saint Matthieu, relisez non seulement le chapitre dans la Bible, la Sainte Bible, dans l'évangile de Saint Matthieu, les 42 versets du chapitre 10, mais éventuellement relisez au moins le polycopier, hein, pour vous aider à passer tout ça dans votre vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement écouter le cours, puis après on oublie, il faut faire passer le cours dans la vie de tous les jours. Terminons par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.